Galates chapitre 3, le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction. Ça, c'est une grande nouvelle. Christ nous a rachetés de la malédiction. Et le thème de la mission à Vennes, c'était en finir avec le malheur. Et moi, je vais aller dans ce sens-là encore cet après-midi. Il faut savoir qu'un jour, Dieu s'est préoccupé de notre malheur. Et il nous a donné quelqu'un qui a porté le malheur de l'humanité sur lui. C'était à la croix, on vient de le chanter. Il y a des cantiques, c'est pas facile de prêcher après. Hein, sur le sang de Jésus parle mieux que les 20 discours. Je pense que j'aurais pu le rester à ma place, moi. Mais bon, et j'espère que ça va pas être 20 cet après-midi. Christ nous a rachetés de la malédiction. Dès la fin, le verset 14 nous dit « Afin que la bénédiction soit notre partage. » Afin qu'on soit des gens bénis, des gens, pas des bénis oui-oui comme la religion en fabrique, mais des gens bénis, dans un couple béni, avec une famille bénie, des enfants bénis. Ça, c'est ce que Dieu veut pour vous et pour moi. Ça vous fait plaisir de savoir ça? Il y a tellement de gens qui ignorent tout de Dieu et qui pensent que Dieu est quelqu'un de sournois, qui prépare des mauvais coups en permanence contre nous et que... Il va nous piéger à un moment ou à un autre. Non, Dieu a de bonnes intentions pour nous. Il a des projets d'avenir, des projets de bonheur et il veut qu'on soit des gens bénis sur la terre. Alors on va lire l'histoire, enfin une histoire très courte, parce que l'histoire est très courte. Dans le premier livre des Chroniques, j'aime beaucoup ce livre des Chroniques, premier livre des Chroniques, on n'y va pas souvent, mais si vous avez votre Bible avec vous, c'est au chapitre 4, le verset 9. Question d'un homme qui va faire monter vers Dieu une prière qui me plaît énormément, prière que j'ai fait mienne depuis des années. Et rien ne vous empêche d'en faire autant. Ce n'est pas une prière superstitieuse, ce n'est pas une prière religieuse, ce n'est pas une prière apprise par cœur. C'est la prière du cœur d'un homme qui se rend compte que sur la terre, la vie, ça peut être une grosse, grosse galère en permanence. Et lui va s'adresser à Dieu dans ces termes-là. Je lis avec vous au verset 9. Jaébet était le plus considéré parmi ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que j'ai enfanté avec douleur ». Donc sa vie commençait mal. Ma vie a mal commencé. J'ai été un sujet de souffrance pour ma mère dès la naissance. Et pas seulement à cause des douleurs de l'enfantement, mais tout de suite, j'étais un problème pour elle. Et il y a bien des gens qui sont dans ce cas-là. Leur vie a commencé de travers. Tout a débuté de travers. Et c'est le cas de Jaébet. Mais il va s'en sortir. Et de quelle manière? Le malheur ne va pas être la fatalité de sa vie, il va changer la donne, il va en se tournant vers Dieu, et c'est ce qu'on lit par la suite. Voilà, c'est « Je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et que si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, etc. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Si vous avez lu avec moi, il y a trois petits points de suspension, parce que finalement, c'est ce que Dieu a envie de faire pour nous. Il n'y avait pas besoin que le gars multiplie rallonge sa prière, qu'il en rajoute. C'est ce que Dieu veut faire pour nous. Alors j'aime bien cette prière dans la version du rabbinat français. Je la trouve encore plus marquante. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions, étends sur moi ta main protectrice. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention. Et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Qui a envie de dire amen à cette prière-là? Moi, j'ai toujours, c'est toujours la mienne. Quoi. C'est toujours ma prière. Et vous savez, quand j'étais tout seul dans la vie, quand j'étais un ado et que je n'avais pas, et c'est normal, on ne se préoccupe pas de certaines choses, mais je n'avais pas une conception du malheur qui m'effrayait vraiment. Quoi. Je savais que le malheur existait, mais franchement, ça ne me concernait pas trop. Quoi. Je n'avais pas, j'étais une vie normale. Quand je me suis marié, par amour, c'est comme ça. Pourquoi vous riez? Là, d'un seul coup, tu te préoccupes de l'autre. Et tu te soucies pour l'autre. Ma femme faisait des gardes à l'hôpital la nuit, parfois à rentrer très tard, et tu te préoccupes. Quoi. Et ça s'est aggravé quand j'ai eu des enfants. 4. Et là, il y a des jours où tu mesures la dangerosité du monde dans lequel on est. Mettre tes enfants à l'école, c'est parfois très risqué. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Les laisser... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça s'aggrave encore plus quand tu deviens grand-père ou grand-mère. Je comptais ce matin, j'ai eu du mal d'ailleurs, mais grand-père, neuf fois moi, ouais, neuf fois. Et bien, neuf fois, ça, et c'est peut-être avec l'âge en plus, mais tu es de plus en plus conscient du monde dangereux dans lequel on évolue. Tes petits-enfants que tu aimes, tu as envie de faire cette prière. Dieu, éloigne de moi, éloigne de ma famille, éloigne de mes enfants, éloigne de ceux que j'aime, le malheur et la souffrance. Eh ouais, on a envie de la faire cette prière. C'est notre prière. Et Dieu attend qu'on la fasse. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur le début de la prière. Dieu d'Israël. Ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, peut-être. On est français d'Israël. Mais ça veut dire beaucoup de choses là, dans le texte biblique, dans la prière, dans l'intercession, dans la demande de cet homme. Israël, c'est d'abord un individu. C'est une personne, Jacob, qui n'a pas eu une vie irréprochable, hein, loin de là. Et Dieu, c'est le Dieu qui veut éloigner de l'individu, de la personne, de ma personne, de la vôtre. Il veut éloigner de nous le malheur et la souffrance. Ensuite, Israël, c'est l'idée d'une famille. Jacob, Israël, a eu 12 fils, plus des filles, avec qui il a eu énormément de problèmes. Alors plus vous en avez, plus vous avez de problèmes. Vous savez ce qu'on dit, hein? Petits enfants, voilà, et grands, voilà. Bon, on dit la même chose dans le nord et dans le sud. Et il a eu beaucoup de difficultés. Mais cet homme-là s'est toujours tourné vers Dieu. Et Jaébed fait allusion à lui parce que Dieu, c'est le Dieu de la famille. Le Dieu qui aime éloigner de nous le malheur du divorce. Le malheur de la tromperie, de l'adultère, le malheur de la mésentente à la maison, le malheur des disputes, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous annonçons, le Dieu qui est au milieu de nous, c'est le Dieu qui aime à bénir la famille, à éloigner de nos familles le malheur et la souffrance. Et puis c'est un peuple, Israël c'est un peuple, encore aujourd'hui. Et cet homme-là fait allusion au Dieu qui aime bénir nos nations. Bah, vous savez, moi je suis français, et en plus normand, ça aggrave le truc, mais et les Français sont tout le temps en train de râler. Hein. D'ailleurs, si vous allez à l'étranger et que vous interrogez sur les Français, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ils ne sont jamais contents de rien. Ça va, bon, on va faire grève. Voilà. Je devais venir à Nice il n'y a pas longtemps, hein. Je vais être en mission à Nice, et je n'ai pas pu partir parce qu'il y avait une grève, ce qui est rare, je n'ai pas eu de chance, mais... Et voilà, bon, les pas d'avion, tu pars pas, la mission est annulée. Mais on aime notre pays. Moi, j'ai mis du temps à aimer mon pays. Mais j'ai compris que Dieu attend qu'on aime le pays, même la France, où on est, et qu'on prie pour que Dieu bénisse notre pays. Bah, voilà, Dieu, c'est celui qui aime à bénir les peuples. Ça, c'est une première chose que je voulais noter avec vous. La deuxième chose, c'est que Jaébed, c'est le symbole de l'homme qui refuse la fatalité. Ça commence très mal dans la vie, mais on le trouve à un moment de sa vie, c'est l'homme le plus considéré parmi ses frères. Ce n'est pas un revanchard. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont mal commencé dans la vie et qui sont revanchards. Mais lui, non, ce n'est pas un revanchard. Lui, ça a mal commencé. Imaginez quand on faisait l'appel à l'école. Son nom signifie « racine d'affliction ». Enfin, un truc joyeux, quoi. Vous imaginez l'appel « racine d'affliction ». T'es là ? Ouais, ouais, ouais. Sors, on ne garde pas. Le gars, il portait ça sur lui. Il avait la malédiction, ses mauvais débuts, la mauvaise image qu'il avait de lui, toute la souffrance qu'il avait fait endurer aux autres, il portait ça sur lui. Et il a réussi à être l'homme le plus considéré parmi ses frères. Celui qui a réussi dans l'existence, celui qui était au-dessus du lot. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il s'est tourné vers le Dieu vivant et vrai. À un moment donné, il s'est tourné vers le Dieu du ciel pour en finir avec la malédiction congénitale et hériter de la bénédiction évangélique. Déjà avant l'heure, il a hérité de cette bénédiction qui vient du ciel. Il l'a recherchée. Il s'est adressé au seul capable de bénir la vie d'un être humain, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile. Moi, j'aimerais vous dire ça, il n'y a pas de fatalité avec Dieu. on l'a vu, je ne sais plus dans quelle réunion, il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Vous êtes né sous une mauvaise étoile, ben Dieu vous dit, changez d'étoile. Jésus s'appelle, comment c'est le texte ? L'étoile brillante, merci, heureusement que tu es là, l'étoile brillante du matin. Tu es né sous la mauvaise étoile, ça a mal démarré dans ta vie, tu n'as rien réussi dans ta vie, tout a été de guingois, il n'y a rien qui a fonctionné, tu as l'impression d'avoir le mauvais œil, tu es né sous la mauvaise étoile de l'occultisme, de la souffrance, de la mésestime de soi, le malheur est attaché à tes basques, change d'étoile. Jésus, c'est l'étoile brillante du matin que Dieu nous a donnée. Puis il y a des binômes dans ce texte qui sont assez inquiétants. Le malheur et la souffrance, ça va de pair. Quand on est dans le malheur, on souffre. Tout simplement parce qu'on n'est pas fait pour être malheureux. Mais on ne peut pas sortir de son malheur tant que Dieu est absent de notre vie. On peut mettre de la religion dans notre vie. On peut teinter notre vie de religion, de superstition. On va y venir dans quelques petites secondes. Mais ce n'est pas ça qui change la donne. Ce qui change la donne, c'est que Dieu, le Dieu vivant est vrai. On se tourne vers lui, on l'invoque, on s'adresse à lui et on lui fasse cette prière. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Alors je vais passer vite sur les formes étranges du malheur pour faire un petit historique très rapide de comment on éloigne le malheur de notre vie, de notre famille, de nos enfants, de ceux qu'on aime. Comment on peut éloigner le malheur ? Avez-vous remarqué que dans le domaine, l'être humain est capable de beaucoup d'imagination. Toutes sortes de choses comme éloigner le malheur de nos maisons, de nos familles, de nos circonstances. On sait que le malheur existe, on sait que c'est une espèce d'entité spirituelle, malheur qu'on a du mal à contrôler. On ne connaît pas les formes que ça peut prendre. Ça peut prendre la forme d'une jolie voisine. Pour toi, madame, c'était ton amie, tu l'as fait rentrer à la maison et elle est partie avec ton mari. Eh oui, c'est vrai. Malheureusement, oui. Ça peut prendre la forme d'une carte de tarot. C'est le tarot marseillais, c'est pas trop. Vous voyez ? Et il y a quelqu'un un jour qui t'a fait des cartes et depuis, ta vie, elle est dans le malheur. Vous connaissez Christine Bravo ? Oui, que les vieux, quoi. Bon. C'est vrai, en même temps, elle est plutôt jeune. Christine Bravo, elle expliquait un jour, c'est une journaliste. Bientôt à la retraite sûrement, et elle expliquait que pour s'amuser, elle est allée chez une voyante. Mais pour s'amuser. Et en allant chez cette voyante, elle s'attendait à découvrir, pour s'amuser quoi, elle voulait voir la consultation d'une voyante. Et la voyante lui a dit juste une chose qui a perturbé la femme, là, qui l'a mis dans un... Elle lui a dit, madame, bravo, vous mourrez un 12 février. Tant que le 12 février n'est pas passé, la fille, elle vit pas quoi. C'est terrible quoi. Elle a mis quelque chose de morbide dans la vie de cette femme, dans les pensées de cette femme. Une carte de tarot, une consultation chez une voyante. On a été se faire les lignes de la main, le marc de café, la boule de cristal. Et là, il y a quelque chose qui est rentré dans notre vie. Le malheur est rentré à la maison. Le malheur est rentré dans nos pensées. On ne s'en sort plus. Bouteille d'alcool. Ça, c'est tellement, tellement répandu. Une seringue, un petit joint, ça commence toujours, c'est toujours agréable, il paraît. Jamais essayé. Une voiture broyée, un smartphone, un réseau social ou un autre. Et le malheur passe par là. Il y a un gamin, il n'y a pas longtemps, là, dans le sud de la France, c'est un petit rouquin. Petit rouquin. Et à l'époque, à l'école, il était sujet aux moqueries parce que rouquin. Et voilà. Les enfants entre eux sont parfois cruels, hein, mais ça a été notre lot à tous. Hein. Bon, il supportait de moins en moins. Mais le gamin a fini par se pendre, 13 ans, parce qu'il ne supportait plus le harcèlement via Facebook et les réseaux. Moi, je ne dirais jamais assez tout le mal que je pense de ces réseaux sociaux, le mal que ça fait à nos enfants et à notre jeunesse à de tellement de niveaux. Alors je suis prêt si tu m'invites à faire une semaine de là-dessus, y a pas de... Mais franchement, j'en pense de plus en plus de mal. Quoi. Facebook, ça a été inventé par des gars qui voulaient coucher avec le maximum de filles sur le campus. C'est donc un site qui est dédié à l'origine à l'adultère. Ça, beaucoup de gens, ouais, mais non, c'est pour la famille, c'est tout. Ok, pas de problème, c'est quand même dédié à ça à l'origine. Alors on va essayer d'éloigner le malheur de notre vie. Et plus on essaie d'éloigner le malheur, plus on lui ouvre la porte, plus on lui rend service. Est-ce qu'il existe un épouvantail à malheur dans la vie ? Ah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, mais pourtant, les êtres humains en ont inventé des masses. On se moque parfois avec un certain... Vous savez, le mépris des colonisateurs qui restent en nous. On se moque parfois des Africains avec nos amis africains, avec leurs gris-gris, leurs amulettes, etc., leurs incantations, leurs croyances, leurs superstitions. Mais on a les mêmes. Ça ne s'appelle pas pareil, mais on a les mêmes. On a les mêmes en France, les bons Français de souche. Eux, ils mettent un fer à cheval. Et ils sont sûrs que ça, c'est la civilisation, ça. C'est la même chose, quoi. Moi, là où j'habitais avant, à Grand-Quevilly, là, Grand-Quevilly, vous ne connaissez pas plus que... Non, pas plus, bon, okay. C'est à côté, hein, mais bon. J'allais garer ma voiture et je rentrais à pied à la maison. Et je passais devant un immeuble, un appartement, là. Et le gars, il avait au moins une dizaine de fers à cheval. Comme ça qu'on dit, hein, ouais. Une dizaine de fers à cheval au balcon. Et un jour, j'ai vu sa voiture. Une Mercedes avec la super calandre. C'est beau, une Mercedes. Hein. La calandre Mercedes. Et l'autre, il avait mis des fers à cheval sur la calandre Mercedes. C'est le gars qui croyait vraiment que les fers à cheval, ça allait repousser le malheur de sa vie. Non, non, laisse tomber, tu peux revendre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mon collègue Daniel Guillet, un jour, on travaillait ensemble dans l'agglomération, il était avec moi, et lui, il sortait du bac. Alors le bac, ça vous parle ou pas ? Le bac, c'est un petit bateau plat où on traverse la Seine. Hein. Donc il passait le bac, mais pas... Bon, parce que l'autre jour, j'ai dit, il passait le bac, il y en a qui n'ont pas compris. Mais il passait le bac, et de l'autre côté, il montait pour sortir du bateau, là, du bateau plat, et il y a un gars qui le percute avec sa voiture. Donc Daniel Guillet, tu le connais un peu, c'est un homme gentil. C'est pas grave, monsieur, venez. L'autre lui dit, bah, écoutez, montez dans ma voiture, on va faire le constat, je suis désolé, parce que j'ai un problème d'assurance, j'ai eu beaucoup d'accidents. Et quand Daniel Guillet monte dans la voiture, elle est tapissée, je vous promets que c'est vrai, hein, tapissée de Saint-Christophe, il y en a partout. Vous savez qui c'est Saint-Christophe ? C'est celui qui... Ah, il y en a qui se connaissent. Saint-Christophe, c'est le protecteur des gens qui conduisent, des voyageurs. Et Daniel Guillet lui dit, ça ne marche pas. Hein. Non, monsieur lui dit non. Et ça, c'est une réalité que beaucoup ne savent pas, mais le Vatican a enlevé, il n'est plus saint. Parce qu'il y avait trop d'accidents, donc on ne l'a pas gardé. Mais c'est sérieux, ils ne l'ont pas gardé. Avez-vous remarqué, vous avez une cathédrale à Gap, non ? Elle est à Gap ou elle est à Embrun ? À Gap ? Nous, on a la nôtre est plus belle, mais enfin bon... À Rouen, elle est magnifique. Et sur toutes les églises ou les cathédrales, vous avez ce qu'on appelle des gargouilles. OK ? Vous avez vu la tête des gargouilles ? Tu te demandes ce que ça fait là, quoi. C'est des gargouilles. Quasimodo, Smeralda, Garou. Là, ça y est, il y en a qui captent. OK ? Eh, hey, la tête des gargouilles, c'est horrible, c'est des têtes de démons, tu sais pas ce que c'est. Moi, je me demandais, qu'est-ce que ça peut bien faire sur un lieu religieux, sur un lieu chrétien qui se réclame du Christ ? Qu'est-ce que ça fait là ? Ben, y a une signification toute simple. Les gargouilles sont là pour repousser le malheur. Ça marche pas, hein, mais bon, c'est que ça, ils ont fait du boulot avec ça. Et c'est pour repousser le malheur. Et ça, c'est les croyances et les superstitions religieuses. On veut repousser le malheur, on veut interdire au malheur de rentrer, on veut faire peur au mal, à la maladie, aux actions diaboliques, à l'enfer, à tout ce que vous voudrez. Alors on fabrique des gargouilles. Et on a fabriqué des gargouilles laïques. Ah oui, il n'y a pas beaucoup qui le savent, ça prenait pas mal si vous en avez dans votre jardin, hein, je vous assure, mais les nains de jardin sont à l'origine, et oui, c'est vrai, les nains de jardin à l'origine, on les met dans les jardins pour, et j'en connais qui vont ranger ce soir dans leur jardin, ils sont là, j'ai fini, c'est bon, je te remercie. Et c'est fou ça, moi je ne savais pas, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Alors si vous avez des nains de jardin, prenez pas mal, vous ne l'avez sûrement pas fait pour ça, mais en l'occurrence, on a besoin de repousser le malheur. Et on va essayer de se trouver des médailles pour repousser le malheur. On va essayer de trouver toutes sortes d'invocations, d'incantations, et puis repousser le malheur. Mais ça ne marche pas. ça ne marche pas. Changer le cours de votre histoire, en finir avec le malheur congénital. Pour ça, cet homme, au travers des siècles, et ce livre, la Bible, au travers des siècles, nous montre le chemin. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Et pour en finir avec le malheur et la souffrance, faites comme cet homme. Adressez-vous au Dieu vivant et vrai. Adressez-vous au Dieu de la Bible. Pas encore une fois dans le cadre d'une prière religieuse ou superstitieuse de plus, mais celle d'un cœur qui prend la mesure et qui prend conscience de sa fragilité et de la dangerosité de ce monde, qui prend conscience de ses échecs et qui veut en finir avec ses échecs. L'évangile qui prône la conversion et qui prône la nouvelle naissance, l'évangile qui nous parle d'une personne qui est capable de nous donner un nouveau départ et de nous protéger du malheur. Et cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Cette personne qui est venue jusqu'à nous, qui a porté sur la croix notre malheur, il a été fait malédiction pour que nous, en tant que personne, individu, en tant que famille, en tant que peuple, on hérite de la bénédiction. Quel dommage que ce message-là ne fasse pas la une de nos journaux de 20 heures. Hein, il n'y a que des mauvaises nouvelles dans ces journaux. Ça, c'est déprimant. Mais ouvrez l'évangile. Je ne sais plus quel matin c'était. Là, j'avais eu le temps de lire ma Bible, mais je n'avais pas eu le temps de prier. Donc j'avais faim, je vais prendre mon petit déjeuner. Il devait être 6 heures le matin à la maison, cet hiver. Et j'ai la très mauvaise idée de mettre, iTélé. Je me dis, tiens, je vais prendre des nouvelles du monde. Ah, j'ai vite éteint et je me suis dit, vaut mieux prendre des nouvelles du ciel avant. Et quand tu vas prendre des nouvelles du ciel, ta journée est bonne. Quand tu prends des nouvelles du monde, il n'y a que des catastrophes, il n'y a que des mauvaises nouvelles, il n'y a que des choses qui ne vont pas. Vaut mieux prendre des nouvelles de Dieu et du ciel avant. Le Dieu de l'autre chance, c'est le Dieu que je vous prêche cet après-midi. C'est le Dieu dans lequel nous croyons ici. J'aime beaucoup l'expression, enfin le mot miséricorde, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les deux langues, l'hébreu et le grec, on retrouve l'idée de l'autre chance. L'autre chance. Vous savez comment on fait, nous, les êtres humains, quand quelqu'un nous a trahis, on lui donne une seconde chance. Ce qui veut dire que, méfie-toi, il n'y en aura pas de troisième. Mais Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu que je prêche, c'est celui qui nous donne une autre chance. Chaque fois qu'on en aura besoin, il nous donnera une autre chance. Vous dites amen à ça. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Changez le cours de votre histoire. Ne restez pas avec la malédiction congénitale qui est la vôtre. Vous êtes né dans une famille où le malheur avait sa place. Et vous vous dites jamais, je pourrai en sortir parce que ça a toujours été comme ça. Et je m'en sortirai jamais. Eh bien, c'est faux. Si quelqu'un n'est pas fataliste, c'est Dieu. Vous connaissez la formule utilisée par les Arabes ? Inch'Allah, comme ça. Non, il n'y a rien d'écrit d'avance. Sinon, Dieu ne nous aurait pas donné Jésus. Il ne nous aurait pas envoyé l'évangile. Et il ne nous inviterait pas à croire dans le Dieu qui change le mal en bien. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Si vous n'avez jamais prié de votre vie, je vous invite à prier avec moi et à faire monter vers Dieu cette prière. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Et Dieu va le faire. Mais Dieu vous dit simplement par sa parole, pour que le malheur soit éloigné de ta vie, éloigné de ton cœur, éloigné de tes enfants, éloigné de tes petits-enfants, éloigné de ta maison où il se passe tellement de choses étranges. Depuis que tu as été consulté un voyant, il se passe des choses dans ta maison que tu ne contrôles pas. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. C'est possible par une personne, Jésus. Et je vous invite à inviter Jésus dans votre cœur. On va prier, vous voulez bien? Bénis ta parole, s'il te plaît, Seigneur. Merci de ce que Jésus a été fait malédiction pour nous. Merci parce que Jésus a porté la malédiction congénitale de l'humanité, des familles, de l'individu. Il a porté cette malédiction pour que nous, qui que nous soyons cet après-midi, nous héritions de la bénédiction. Alors je prie pour la prédication de l'Évangile afin qu'elle laisse des traces. Moi je vais me taire, j'ai fini mon message, mais le Saint-Esprit, lui, n'a pas fini de parler. Mais il continue à parler pendant cette réunion, après cette réunion, dans la nuit, dans les journées qui viennent, dans la semaine qui vient. Tu continues à parler à nos cœurs. Que nous soyons comme Jaébet, que nous ayons cette préoccupation, Seigneur, d'être délivrés du malheur congénital. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen.